Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est au Congo-Brazzaville, deuxième étape de sa tournée africaine. Au Nigeria, suspension de la grève générale pour permettre les négociations entre le gouvernement et les syndicats sur le salaire minimum. Le président Joe Biden annonce des mesures pour réduire les entrées illégales aux États-Unis. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, est arrivé au Congo-Brazzaville. Il a vilipendé l'Occident et ses supposés objectifs en Ukraine et en Libye. Plus de précisions avec Dilidico.
Lors d'une conférence de presse à Oyo, en République du Congo, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui effectue une tournée africaine, a affirmé au sujet de la guerre en Ukraine que des instructeurs français travaillent déjà sur le terrain. Il ajoute que le président Denis Sassou Nguesso a fait preuve de compréhension de nos actions et comprend bien que l'Ukraine est l'instrument de l'Occident, dont l'objectif est d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Nous soutenons l'initiative du président Denis Sassou Nguesso qui vise à organiser une conférence interlibyenne, a ajouté le chef de la diplomatie russe après son entretien avec le président congolais. Ce qui s'est passé en Libye est une tragédie dont les auteurs sont l'OTAN et ses membres. La même chose s'est passée en Irak et en Afghanistan, où l'Occident a voulu imposer son mode de démocratie, a dit Sergueï Lavrov. La tournée de Sergueï Lavrov a commencé lundi en Guinée. Après le Congo-Brazzaville, il doit se rendre au Tchad.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, le Comité international de la Croix-Rouge a dû suspendre son assistance en vivres à des milliers de déplacés à cause de nouveaux combats entre la rébellion du M23 et les forces gouvernementales. Ces affrontements ont provoqué de nouveaux déplacements de population. Au Nigeria, les principaux syndicats ont suspendu pour une semaine la grève illimitée qu'ils ont débutée hier. Ils vont poursuivre les négociations avec le gouvernement sur le salaire minimum. Des précisions avec Nanit Talani.
Après une réunion extraordinaire aujourd'hui, il a été décidé que la grève sera suspendue pour une semaine et que nous poursuivrons les négociations avec le gouvernement sur le salaire minimum, a déclaré Festus Osifo, président de l'une des deux plus grandes confédérations syndicales. Ce mouvement de grève a été lancé lundi par le Congrès du travail du Nigeria et le Congrès des syndicats. Maintenant, le gouvernement se dit ouvert à une augmentation du salaire minimum, mais pour le moment, aucun montant précis n'a été annoncé. À Abuja, certains fonctionnaires ont repris le travail, mais la plupart des bureaux et l'Assemblée nationale sont restés fermés. Les membres du syndicat de l'aviation se sont rassemblés ce matin devant l'aéroport domestique de Lagos. Le président du syndicat nigérian des travailleurs du pétrole et du gaz a déclaré qu'il s'abstenait de rappeler les travailleurs des plateformes offshore en attendant l'issue des négociations en cours entre le gouvernement et les syndicats.
Grève également au Burkina Faso. Les avocats ont entamé leur mouvement ce mardi, paralysant de nombreux tribunaux. Ils exigent le respect de la procédure pénale et des décisions de justice après l'incarcération de leur confrère, maître Guy Hervé Cam, figure de la société civile. La grève doit durer jusqu'à samedi. Au Sénégal, la concertation nationale sur la réforme de la justice a rendu ses premières recommandations. Ces assises préconisent une dizaine de mesures, dont la mise en place d'une cour constitutionnelle, la révision du code pénal, du code de la famille, la limitation des pouvoirs du procureur. Les conclusions ont été remises aujourd'hui au président Bassirou Diomaye Faye pour une éventuelle réforme. En Afrique du Sud, au moins 22 personnes sont mortes dans des inondations provoquées par de fortes précipitations accompagnées de vents violents. Les intempéries qui se poursuivent depuis le week-end se concentrent pour l'instant dans la province de l'Eastern Cape dans le sud-est et celle du KwaZulu-Natal dans l'est.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Qatar dit attendre une position claire du gouvernement israélien sur le plan de cesser le feu à Gaza, selon une annonce du président américain Joe Biden. La France appelle le Hamas à accepter l'accord. Alexandrine Holonian.
Nous n'avons pas encore vu de position très claire de la part du gouvernement israélien sur les principes énoncés par le président Biden, a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse. Majid Al-Ansari affirme avoir lu et vu les déclarations contradictoires émanant des ministres israéliens, ce qui ne donne pas, selon lui, beaucoup confiance sur l'existence d'une position unifiée en Israël sur la proposition actuellement sur la table. Le Hamas n'avait pas non plus annoncé sa position. Le responsable qatari a indiqué plus tard que son pays avait reçu une proposition israélienne qui reflète les positions exprimées par le président Biden et qui est beaucoup plus proche des conditions imposées par les deux parties. Cette proposition a été soumise au Hamas, a-t-il affirmé, en assurant que Doha fait de son mieux pour aboutir à un accord. Dans la foulée, le président français Emmanuel Macron a appelé le Hamas à accepter l'accord de cessez-le-feu mis sur la table par son homologue américain Joe Biden.
Par ailleurs, en Israël, les deux partis ultra-orthodoxes, membres du gouvernement, ont affirmé aujourd'hui soutenir la proposition de cesser le feu annoncée par le président Joe Biden. Et dans une interview au magazine Time publiée aujourd'hui, Joe Biden a déclaré avoir un désaccord majeur avec le Premier ministre israélien au sujet de l'après-guerre, affirmant qu'il y avait tout lieu de conclure que Benjamin Netanyahou faisait traîner la guerre à Gaza pour sa propre survie politique. Ici, aux États-Unis, la presse rapporte que le président Joe Biden compte annoncer cet après-midi des mesures permettant de fermer temporairement la frontière du pays avec le Mexique en cas de bond des arrivées de migrants clandestins. Jacques Aristide.
Il s'agit d'un décret ayant pour but d'empêcher les migrants entrés illégalement d'accéder au système d'asile lorsque leur nombre dépasse les 2500 par jour. Le texte facilitera également les expulsions vers le Mexique, selon des médias américains. En raison du nombre actuel d'entrées illégales, la mesure pourrait être mise en œuvre immédiatement. Les restrictions ne seraient levées que quand les arrivées passeraient sous la barre de 1500. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes sans cesse en train d'examiner toutes les options possibles pour tenter de résoudre les problèmes liés au système de l'immigration qui ne fonctionne pas depuis des décennies, a commenté hier Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche. Cette politique d'immigration, l'une des plus restrictives jamais adoptées par un président démocrate, le rapprocherait des positions de son prédécesseur républicain Donald Trump, alors que tous les sondages montrent que le sujet pèse lourd sur les chances de réélection de Joe Biden en novembre prochain. L'équipe de campagne de Donald Trump a balayé la mesure comme une tentative désespérée pour séduire l'électorat le plus conservateur.
En Russie, plus d'une centaine de partisans du défunt opposant Alexei Navalny lui ont rendu hommage ce mardi, jour de son anniversaire, en déposant une montagne de fleurs sur sa tombe à Moscou. La présidence française a annoncé que le président Emmanuel Macron recevra son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, vendredi à l'Élysée, à l'issue des célébrations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, pour discuter, je cite, des besoins de l'Ukraine face à la Russie. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a revendiqué la victoire pour son parti et ses alliés aux élections législatives, mais avec une majorité parlementaire réduite. Le Congrès, principal parti d'opposition, semble de son côté en mesure de quasiment doubler le nombre de sièges parlementaires, un revirement remarquable obtenu grâce à des accords visant à présenter des candidats uniques. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
En Afrique du Sud, le Trésor entend maintenir une politique budgétaire équilibrée sous un gouvernement de coalition après que l'ANC a perdu la majorité absolue au Parlement. Le monde des affaires se dit préoccupé par la perspective d'une coalition de l'ANC avec le Parti des combattants pour la liberté économique de Julius Malema qui appelle à l'expropriation des terres appartenant à des blancs et la nationalisation des mines et des banques ou avec un député de l'ex-président Jacob Zuma qui parle de la redistribution des terres sans compensation. En Côte d'Ivoire, les arrivées de cacao de la principale récolte dans les ports ont atteint 1,508 millions de tonnes entre le 27 mai et le 2 juin, une baisse de 28,3% par rapport à la même période de la saison précédente, estiment les exportateurs. Environ 18 000 tonnes de fèves de cacao ont été livrées au port d'Abidjan et 21 000 tonnes à San Pedro pour un total de 39 000 tonnes contre 36 000 tonnes la campagne précédente. Pour terminer, Total Energy poursuit le développement du projet pétrolier de Kaminho sur les côtes angolaises après avoir pris une décision finale d'investissement. Le projet de 6 milliards de dollars implique le développement de deux champs pétroliers situés à Kameya et Golfino, selon l'Agence nationale angolaise des hydrocarbures. La production devrait commencer en 2028 avec un plateau de 170 000 barils de pétrole par jour, indique Total.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Claire.
Mbappé se dit libéré, soulagé par son transfert au Real de Madrid.
Et oui, l'attaquant français Kylian Mbappé s'est dit mardi libéré, soulagé par son transfert au Real Madrid lors de sa première prise de parole après l'annonce de sa signature au cours d'une conférence de presse à la veille du match amical France-Luxembourg à Metz. « Je vais être un joueur du Real durant au moins 5 saisons. C'est un immense plaisir, un rêve qui se réalise. C'est le club où j'ai toujours rêvé d'être », a déclaré le capitaine des Bleus, avant d'indiquer qu'il ne répondrait à aucune question sur son arrivée au Real pour protéger la sélection.
Euro 2024, amical, l'Angleterre enfonce la Bosnie.
L'Angleterre a fait craquer la Bosnie-Herzégovine avec 3 buts en seconde période lundi à Newcastle pour son premier match de préparation à l'Euro 2024 avec un visage rajeuni et inexpérimenté. Le sélectionneur des Three Lions, parmi les grands favoris du tournoi en Allemagne, 14 juin, 14 juillet, devait naviguer entre l'absence de titulaires blessés ou absents comme le madrilène Jude Bellingham et la nécessité de voir à l'œuvre son banc et son arrière-banc.
L'Allemagne contrainte au match nul contre l'Ukraine en préparation.
Sans ses 4 finalistes de la Ligue des Champions, l'Allemagne n'a pu faire mieux que match nul, 0 but partout contre l'Ukraine en match de préparation à l'Euro 2024, lundi soir au Max Marlock Stadion de Nuremberg. Les Allemands restaient sur 2 victoires probantes au mois de mars en match amical, à Lyon contre les Français et contre les Pays-Bas à Francfort qui ont redonné espoir à leurs supporters pour l'Euro à domicile.
En Italie, Marotta, nouveau président de l'Inter Milan.
Le nouveau propriétaire de l'Inter Milan, le fonds américain Oaktree, a fait le choix de la continuité en désignant ce mardi l'Italien Beppe Marotta, président du champion d'Italie en titre. Marotta était jusque-là administrateur du secteur sportif de l'Inter. Cette nomination est une reconnaissance du fantastique travail accompli par de nombreuses personnes lors des 3 dernières années, a réagi Marotta, cité dans le communiqué du club. Marotta, 67 ans, est un dirigeant influent du football italien, passé notamment par l'Atalanta, la Sampdoria et la Juventus Turin. Il a rejoint l'Inter en 2018 et sous sa direction sportive, le club lombard a remporté 2 titres de champion d'Italie 2021-2024, 2 éditions de la Coupe d'Italie 2022-2023 ait disputé et perdu la finale de la Ligue des Champions en 2023.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes bien à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg toujours avec vous. Place au dossier du jour. La capitale coréenne, Séoul, accueille des délégations de 48 pays africains pour un sommet de deux jours. Le président Yoon Suk-yeol a annoncé plusieurs milliards de dollars d'aide et de soutien à l'investissement pour l'Afrique. La Corée du Sud souhaite saisir cette occasion pour conclure des accords allant de l'approvisionnement en minerais critiques aux projets d'infrastructure. Davantage avec Blanche Sanou.
Le président Yoon Suk-yeol s'est engagé à doubler l'aide publique de son pays en faveur de l'Afrique.
La Corée a décidé de développer un système de prêts et de subventionner plus efficacement en fonction des besoins de chaque pays africain. Et à cette fin, elle augmentera l'aide publique au développement pour la porter à 10 milliards de dollars d'ici 2030. Afin de faciliter l'entrée des entreprises coréennes en Afrique, un financement à l'exportation d'une valeur d'environ 14 milliards de dollars leur sera accordé. Sur cette base, nos entreprises vont s'implanter plus activement en Afrique et contribuera à l'expansion des infrastructures durables.
La Corée du Sud est désireuse d'étendre sa coopération avec les pays africains en matière d'infrastructures et d'énergie. Il a cité notamment des projets tels que la centrale géothermique d'Olkaria au Kenya et la construction du système de stockage d'énergie par batterie en Afrique du Sud. La Tanzanie a annoncé qu'elle emprunterait 2,5 milliards de dollars à la Corée du Sud au cours des 5 prochaines années sous forme de prêts concessionnels, parallèlement à deux accords sur l'utilisation des ressources océaniques et des minéraux utilisés dans les technologies d'énergie propre. Des projets salués par Mohamed Ould Ghazouani, président mauritanien et président de l'Union africaine.
Nous notons avec satisfaction la décision souveraine de la Corée de porter l'aide publique au développement à 10 milliards de dollars américains d'ici 2030, soit le double du volume actuel, et de réserver 14 milliards de dollars américains à l'investissement productif dans des secteurs importants comme le commerce, les nouvelles technologies, l'énergie, la sécurité alimentaire, le capital humain et les infrastructures. Je suis convaincu que notre sommet à jeter les bases d'un partenariat innovant, gagnant-gagnant et durable, et ce en donnant une place particulière à la solidarité et à la confiance à notre intelligence collective.
Le président sud-coréen s'est engagé à contribuer activement aux efforts d'intégration économique régionale de l'Afrique par le biais de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, qui a été lancée en 2019. La Corée veut aussi collaborer avec le continent africain pour accéder à ses abondantes ressources minérales comme le cobalt ou le platine, importantes pour des secteurs technologiques allant de la fabrication de véhicules électriques à l'industrie de la défense.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Les négociations visant à former le premier gouvernement de coalition nationale d'Afrique du Sud sont attendues cette semaine. L'ANC, le parti au pouvoir, a perdu pour la première fois la majorité absolue. Depuis Johannesburg, Kate Bartlett rencontre des difficultés et défis auxquels font face les partis politiques impliqués dans ces prochaines discussions. Récit Jacques Aristide.
Malgré le coup dur que son parti, le Congrès national africain, a subi lors des élections générales, le président Cyril Ramaphosa a fait preuve d'humour lors de la proclamation des résultats dimanche soir, après qu'un responsable de la commission électorale s'est trompé de mot. En accueillant les invités à la cérémonie, Ramaphosa a dit qu'il était distingué, mais qu'il n'était pas encore éteint, provoquant des rires. Mais sur une note plus sérieuse, le chef de l'État a promis que l'ANC, qui a obtenu 40% des voix, travaillerait avec les autres partis pour trouver un terrain d'entente, alors que les pourparlers en vue de former une coalition démarrent. Depuis la fin de l'apartheid, l'ANC a dirigé seul pendant 30 ans. Gouverner au sein d'une coalition constitue donc un monde nouveau. En vertu de la loi, les partis ont désormais 2 semaines pour composer un gouvernement que les Sud-Africains attendent de voir avec appréhension. Il y a plusieurs scénarios, indique à la VOA Mélanie Verveude, ancienne députée de l'ANC et diplomate, aujourd'hui analyste politique.
Il existe un certain nombre d'options de coalition. La première est évidemment une coalition formelle avec l'Alliance démocratique et l'IFP.
Mouvement centriste et principal parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique ou DEA a obtenu 21% des voix lors des élections. De grandes entreprises et des puissances occidentales seraient en faveur d'une coalition avec DEA qui, selon les observateurs, a réussi dans les domaines dont ce parti est en charge au niveau local. Il est dirigé par John Steenhuisen, un blanc, ce qui pose un énorme problème pour beaucoup en Afrique du Sud en raison de l'histoire du pays, note David Evrat, professeur à la Wits School of Governance de Johannesburg.
Nous devons comprendre que former une coalition avec l'Alliance démocratique, qui est l'opposition officielle, est perçue par certains comme une trahison de la révolution.
L'ancienne députée Verveude est d'avis que ceux de l'ANC qui rechignent à une coalition avec DEA peuvent envisager une alliance, soit avec le parti de gauche radical, les combattants pour la liberté économique de Julius Malema, ou avec le nouveau mouvement Umkhonto Wesizwe ou MK de l'ancien président Jacob Zuma.
Mais bien sûr, une coalition ANC-EFF ou une coalition ANC-MK seraient les solutions les plus troublantes, ce que l'ANC ne privilégie pas comme première option, car elle affecterait les marchés de manière assez négative, d'autant plus que l'ANC est très préoccupée par la stabilité que poserait l'une ou l'autre coalition.
Le parti populiste MK, arrivé troisième, a changé la donne lors de ces élections, même si Zuma a dû démissionner comme président en 2018 sur fond de nombreux scandales de corruption. Zuma est un ennemi juré de Ramaphosa. MK affirme rejeter une coalition avec ce qu'il appelle l'ANC de Ramaphosa. L'EFF de Malema, connu pour ses propos incendiaires, est arrivé quatrième. Ce parti réclame l'expropriation sans compensation des terres, de même que la nationalisation des mines et des banques. Steenhuisen a qualifié d'apocalyptique une éventuelle coalition ANC-EFF et a promis que DA s'engagerait dans des pourparlers pour tenter d'empêcher que cela ne se produise. L'ANC affirme que le maintien de Ramaphosa comme président n'est pas négociable.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM. Le Gabon prépare la fin de l'année scolaire et académique. C'est une période qui précède celle des concours d'entrée à la fonction publique. Chaque année, ils sont des milliers de jeunes diplômés à rêver d'un poste budgétaire. Mais la fonction publique est-elle un gage de réussite sociale? La réponse dans ce reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
54 272 agents de l'État en activité, tel est l'effectif actuel de la fonction publique gabonaise. Un chiffre qui représente près de 6% d'une population estimée à plus de 2 millions d'habitants. Attaché de recherche à l'Institut de recherche en sciences humaines, Gilles Dest, 35 ans, fait partie de nombreux diplômés en attente de postes budgétaires depuis 3 longues années.
Nous nous battons non seulement pour servir le Gabon. La rémunération pour nous, c'est une source de motivation. Et aussi, pour mieux faire le terrain, surtout pour nous les chercheurs. Depuis 2021, j'ai été appelé à l'Institut de recherche en sciences humaines. Et depuis lors, je n'ai pas été intégré. Donc je me bats pour ça, mais j'ai déjà tous les documents, je pense que le dossier est en bonne voie.
Si pour certains diplômés, la fin des études doit déboucher sur une intégration à la fonction publique, pour d'autres comme Biré, elle ne fait plus rêver.
Je vois que la fonction publique cloisonne ses cadres, parce qu'il n'y a pas un cadre évolutif dans la fonction publique, comparé aux structures privées, comme par exemple, je peux prendre les structures privées occidentales. Là-bas, on peut évoluer, on peut devenir peut-être plus que ce qu'on était au départ. Mais à la fonction publique, on est bloqué dans un échelon réduit.
La jeune Kaela, étudiante en licence 1 en économie, a un avis plus tranché.
On devrait limiter les embauches à la fonction publique parce que ça limite les ambitions des jeunes. Nous, jeunes, nous devons être ambitieux afin de quoi ? Peut-être créer des entreprises pour nous pouvoir embaucher des personnes.
Un vœu pieux dans un pays où la fonction publique accueille plus de la moitié des chercheurs d'emploi. La loi des finances prévoit 10 000 postes budgétaires supplémentaires cette année. Une opportunité à saisir pour Chris Bivigou, jeune diplômé.
En fonction publique, on a la chance d'avoir des emplois stables avec les bonnes assurances qui nous permettent que lorsqu'on va aller à la retraite, on va profiter de nos cotisations que nous, on a fait tout le long de notre cursus d'emploi. Parce que même quand on était dans les classes inférieures, nos enseignants nous disaient toujours que l'on vienne ou on ne vienne pas, on sera toujours rémunéré. Donc ça nous prouve déjà que là-bas, tu as la chance que même si tu as une maladie qui t'empêche d'être à l'emploi pendant un mois, tu vas toujours revenir et trouver ton emploi et avoir ton salaire à la fin du mois.
Ces recrutements à la fonction publique gabonaise font exploser le budget de l'État. Les prévisions se situent cette année à plus de 700 milliards de francs CFA contre 691 milliards l'année dernière. Ismaël Obianzi à Libreville pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ovoué FM à Libreville. En Zambie, les jeunes continuent d'être marginalisés dans la prise de décision, en particulier en politique, alors qu'ils représentent plus de 70% des 20 millions d'habitants du pays. Mais des jeunes comme Tapera Mbewe, 23 ans, la plus jeune conseillère de quartier primé du pays, défie les pronostics et assume des rôles de leadership politique. Un reportage de Cathy Short, récit Ginny Niwa.
Tapera Mbewe est entrée dans l'histoire en devenant la plus jeune conseillère municipale de Zambie lorsqu'elle a obtenu un siège dans le district rural de Rumfunsa lors des élections générales de 2021. Elle se souvient des difficultés qu'elle a rencontrées pour gagner la confiance de ses électeurs.
Nous étions dans une pièce avec 20 enquêteurs et j'étais la seule femme à être interrogée parmi tous ceux qui étaient venus. En fait, quand je suis arrivée, ils étaient même surpris. Ils m'ont demandé « Tu es sûre que tu n'as pas escorté quelqu'un ou que c'est toi qui es venue pour l'adoption ?» Alors oui, c'est comme ça que je suis arrivée ici.
Tapera a déjà remporté quelques succès dans sa région, notamment en aidant les jeunes filles à retourner à l'école, même après être tombée enceinte et en créant une association d'étudiants pour permettre aux jeunes de participer à la vie politique locale. Au début, les anciens de sa communauté n'étaient pas convaincus.
It didn't come on a silver platter, I'll be honest.
Ce n'est pas venu sur un plateau d'argent, je vais être honnête. J'ai dû faire face à de nombreux défis au départ. Je me suis présentée aux élections dans une zone rurale. Cela signifie que la culture et la tradition passent avant tout le reste. Il y avait donc beaucoup de tensions entre moi et les chefs traditionnels parce qu'ils ne pouvaient pas accepter de voir quelqu'un d'aussi jeune que moi, qui en plus était une femme, être leur chef, quelqu'un à qui ils doivent rendre des comptes.
La mère de Tapera, Charity Ntewewe Mbewe, affirme que sa fille a toujours été une leader active. Elle n'est pas surprise par sa montée en puissance.
Tapera était disciplinée et concentrée grâce à notre implication en tant que parent. Nous l'avons façonnée pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Pendant son enfance, elle avait l'habitude de me suivre aux réunions de la communauté et elle était comme cet enfant qui disait toujours « Maman, où vas-tu ? Je peux voir ce que tu fais ?» C'est ainsi que je me suis retrouvée dans ce milieu rural. Tapera avait l'habitude de me suivre aux réunions de la communauté, aux réunions de l'église, et cela l'a vraiment aidée à interagir avec les gens.
En plus d'être une politicienne élue pour le parti d'opposition Patriotic Front, Tapera est également avocate. Elle dit vouloir utiliser son expertise juridique pour représenter les sans-voix de la société. Son rêve d'enfant est de devenir un jour présidente de la Zambie.
Je ne m'arrêterai pas tant que je ne serai pas présidente de la Zambie. Ma vision est donc la suivante. Je veux une Zambie qui intègre les jeunes. Je veux une Zambie où nous n'avons pas à nous battre pour obtenir un siège à la table. Nous devrions y être. Le siège devrait On devrait s'attendre à ce que nous participions à la politique.
Charity Ntewewe Mbewe se dit extrêmement heureuse et fière de voir sa fille s'épanouir et devenir un leader prometteur de la politique zambienne.
As a mother, I'm proud.
En tant que mère, je suis fière, vous savez, de jouer un rôle dans la formation d'un leader national comme Tapera et de l'aider à réaliser son rêve. Pour moi, je suis fière.
La fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.